Volontiers. Cependant, non, Socrate. Je ferai des recherches et t'écouterai avec le plus grand plaisir sur la question que je t'ai proposée d'abord, savoir s'il faut s'appliquer à la vertu comme à une chose qui peut s'enseigner, ou si on la tient de la nature, ou enfin de quelle manière elle arrive aux hommes.
Si j'avais quelque autorité, non seulement sur moi-même, mais sur toi, Ménon, nous n'examinerions si la vertu peut ou non être enseignée qu'après avoir recherché ce qu'elle est en elle-même. Mais puisque tu ne fais nul effort pour te commander à toi-même, sans doute afin d'être libre, et que d'ailleurs tu entreprends de me commander, et que tu me commandes en effet, je prends le parti de te céder. Car que faire ? Nous allons donc, à ce qu'il semble, examiner la qualité d'une chose dont nous ne connaissons pas la nature. Cependant, relâche au moins quelque chose de ton empire sur moi et permets-moi de rechercher, par manière d'hypothèse, si la vertu peut s'enseigner ou si on l'acquiert par quelque autre voie. Quand je dis par manière d'hypothèse, j'entends par cette méthode d'examen ordinaire au géomètre. Lorsqu'on les interroge sur un espace, par exemple, et qu'on leur demande s'il est possible d'inscrire telle figure triangulaire dans un cercle, ils vous répondront « Je ne sais pas encore si cela est ainsi, mais, en faisant l'hypothèse suivante, elle pourra nous servir pour la solution du problème. » Si cette figure est telle qu'en décrivant un cercle sur ses lignes données, il y a autant d'espace hors du cercle que dans la figure même, il en résultera telle chose. Et autre chose, si cette condition n'est pas remplie. Cette hypothèse posée, je consens à te dire ce qui arrivera par rapport à l'inscription de la figure dans le cercle. Et si cette inscription est possible ou non. Pareillement, puisque nous ne connaissons ni la nature de la vertu, ni ses qualités, examinons par une hypothèse si elle peut ou ne peut pas s'enseigner, par exemple de la manière suivante. Si la vertu, parmi tout ce qui se rapporte à l'âme, a tel caractère, elle pourra s'enseigner. Ou ne le pourra pas. En premier lieu, si elle est d'une autre nature que la science, est-elle susceptible ou non d'enseignement ou, comme nous disions tout à l'heure, de réminiscence ? Ne nous mettons pas en peine duquel de ces deux noms nous nous servirons. Si donc la vertu est d'une autre nature que la science, peut-elle s'enseigner ? Ou plutôt, n'est-il pas clair pour tout le monde que la science est la seule chose que l'homme apprenne.
Il me semble.
Si donc la vertu est une science, il est évident qu'elle peut s'enseigner.
Sans contredit.
Nous nous sommes débarrassés promptement de cette question. La vertu étant telle, on peut l'enseigner. Étant telle, on ne le peut pas.
Oui.
Or, il se présente en second lieu une autre question à examiner, savoir si la vertu est une science ou si elle est d'une autre nature que la science.
Il me paraît que c'est ce qu'il nous faut chercher.
Mais quoi ? Ne disons-nous pas que la vertu est un bien ? Et cette hypothèse qu'elle est un bien, ne nous semble-t-elle pas solide ?
Sans doute.
S'il y a donc quelque espèce de bien qui soit séparé de la science, il se peut faire que la vertu ne soit point une science. Mais s'il n'est aucun genre de bien que la science n'embrasse, nous aurons raison de conjecturer que la vertu est une espèce de science.
Cela est vrai.
De plus, c'est par la vertu que nous sommes bons.
Oui.
Et si nous sommes bons, nous sommes, par conséquent, utiles. Car tous les biens sont utiles, n'est-ce pas ?
Oui.
Ainsi, la vertu est utile.
C'est une suite nécessaire de nos aveux.
Examinons donc quelles sont les choses qui nous sont utiles, en les parcourant en détail. La santé, la force, la beauté, la richesse, voilà ce qu'avec d'autres choses semblables, nous regardons comme utile, n'est-il pas vrai?
Oui.
Nous disons aussi que ces mêmes choses sont quelquefois nuisibles. Es-tu d'un autre sentiment?
Non, je pense de même.
Vois en vertu de quoi toutes ces choses nous sont utiles et en vertu de quoi elles sont nuisibles. Ne sont-elles point utiles lorsqu'on en fait un bon usage et nuisibles lorsqu'on en fait un mauvais?
Assurément.
Considérons maintenant les qualités de l'âme. N'est-il point des qualités que tu appelles modération, justice, courage, facilité d'apprendre, mémoire, libéralité, et ainsi du reste?
Oui.
Vois, entre ces qualités, celles qui te paraissent indépendantes de la science, ne sont-elles pas tantôt nuisibles, tantôt avantageuses? Le courage, par exemple, lorsqu'il est dépourvu de sagesse et qu'il est simplement de l'audace. N'est-il pas vrai que, quand on est audacieux sans sagesse, cela tourne à notre préjudice, et au contraire à notre avantage, quand la sagesse accompagne l'audace?
Oui.
N'en est-il pas ainsi de la modération et de la facilité d'apprendre, qui sont utiles lorsqu'on les applique et les met en œuvre avec sagesse, et nuisibles lorsqu'on en use sans sagesse?
Oui, certes.
N'est-il pas vrai, en général, à l'égard des entreprises et des endurances de l'âme, que, quand la sagesse les guide, elles contribuent à notre bonheur, et à notre malheur quand la sagesse ne les gouverne pas?
Cela est vraisemblable.
Si donc la vertu est une qualité de l'âme, et si elle doit être utile, il faut qu'elle soit de la sagesse, puisque toutes les autres qualités de l'âme ne sont par elles-mêmes, ni utiles ni nuisibles, mais qu'elles deviennent l'un ou l'autre, selon que la sagesse ou la folie s'y joignent. Selon ce raisonnement, la vertu, étant utile, doit être une sorte de sagesse.
Je le pense.
Et par rapport aux autres choses, telles que la richesse et les autres semblables, que nous disions être tantôt utiles et tantôt nuisibles, ne conviens-tu pas que, comme la sagesse, lorsqu'elle est à la tête des autres qualités de l'âme, les rend utiles et la folie nuisible, de même, l'âme rend ces autres choses utiles quand elle en use et les gouverne bien, et nuisibles quand elle s'en sert mal?
Sans contredit.
Or, l'âme sage gouverne bien, et l'âme folle gouverne mal.
Cela est vrai.
Par conséquent, ne peut-on pas dire en général que pour être un bien, tout ce qui est au pouvoir de l'homme doit être soumis à l'âme, et tout ce qui appartient à l'âme doit dépendre de la sagesse? À ce compte, la sagesse est l'utile. Or, nous sommes convenus que la vertu est utile.
Sans contredit.
Donc, nous disons que la vertu est la sagesse, en tout ou en partie.
Tout ceci me paraît bien dit, Socrate.
Mais s'il en est ainsi, les hommes ne sont donc point bons par nature?
Il me paraît que non.
Car voici ce qui arriverait. Si les gens de bien étaient tels naturellement, nous aurions parmi nous des personnages qui feraient le discernement des jeunes gens bons par nature. Après qu'ils nous les auraient fait connaître, nous les recevrions de leurs mains et nous les mettrions en dépôt dans l'acropole, sous un sceau, comme on fait pour l'or, et avec plus de soin encore, afin que personne ne les corrompît et qu'étant devenus grands, ils fussent utiles à leur cité.
Cela est vraisemblable, Socrate.
Puis donc que les hommes bons ne sont pas tels par nature, apprennent-ils à le devenir?
Cela me paraît s'en suivre nécessairement. D'ailleurs, Socrate, il est évident, selon notre hypothèse, que si la vertu est une science, elle peut s'apprendre.
Peut-être, par Zeus. Mais je crains que nous n'ayons eu tort d'accorder ce point.
Cependant, il nous semblait tout à l'heure que nous avions bien fait de l'accorder.
Pour que ce qui a été dit soit solide, il ne suffit pas qu'il nous ait paru tel au moment où nous l'avons dit, mais il doit nous le paraître encore à présent et en tout temps.
Quoi donc ? Pour quelle raison ce sentiment te déplaît-il ? Et ne crois-tu pas que la vertu soit une science ?
Je vais te le dire, Ménon. Je ne révoque point, comme mal accordé, que la vertu puisse s'enseigner si elle est une science. Mais vois si j'ai raison de douter qu'elle en soit une. Dis-moi, si quelque chose que ce soit, pour ne point parler seulement de la vertu, est de nature à être enseignée, n'est-ce pas une nécessité qu'elle ait des maîtres et des disciples ?
Je le pense.
Tout au contraire, lorsqu'une chose n'a ni maître ni disciple, ne sommes-nous pas fondés à conjecturer qu'elle ne peut point s'enseigner ?
Cela est vrai. Mais crois-tu qu'il n'y ait point de maître de vertu ?
Du moins, j'ai cherché souvent s'il y en avait. Et malgré tous les efforts possibles, je n'en puis trouver. Cependant, je fais cette recherche avec beaucoup d'autres, surtout avec ceux que je crois les mieux au fait de la chose. Et à ce moment, mais non, voici quelqu'un qui est venu fort à propos s'asseoir auprès de nous. Faisons-lui part de notre recherche. Nous en avons toutes sortes de raisons. Car, en premier lieu, il est né d'un père riche et sage, nommé Anthémion, qui ne doit point sa fortune au hasard, ni à la libéralité d'autrui, comme Isménias le Thébain, lequel a hérité depuis peu des biens de Polycrate, mais qu'il a acquise par sa sagesse et son industrie. Cet Anthémion, d'ailleurs, ne paraît avoir rien d'arrogant, de fastueux ni de dédaigneux. C'est un citoyen modeste et rangé. De plus, il a très bien élevé et formé son fils, au jugement du peuple athénien. Aussi, le choisissent-ils pour les plus grandes charges. C'est avec de tels hommes qu'il convient de chercher s'il y a, ou non, des maîtres de vertu, et quels ils sont. Aide-nous donc, Anitos, moi et Ménon, ton hôte, dans notre recherche relativement à ceux qui enseignent la vertu. Considère la chose de cette manière. Si nous voulions faire de Ménon, que voici, un bon médecin. Chez quel maître l'enverrions-nous ? N'est-ce pas chez les médecins ?